Vous écoutez RTL.
Merci beaucoup Marie Guerrier, on vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Et nous plongeons dans la bonne heure avec nos invités François Berléand et Alexandra Cazan. Merci à tous les deux d'être là. Je veux raconter tout ce qui vous amène dans un instant. Mais d'abord, je vous présente nos petits camarades. Avec nous, un garçon qui n'est pas très net, mais qu'on accueille avec plaisir tous les mardis. C'est Cyprien Signy qui nous parlera à la fois de l'euro et des moyens de se passer de l'euro.
Bah oui, bonjour à tous. C'est vrai qu'on parle un peu de l'euro et sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup également, mais en positif. Hein.
Très bien. Toute l'actualité de ce mardi vous sera révélée dans les maillots express de Régis Maillot.
Oui, une actualité chargée hein.
Oui. Ce matin.
Qu'est-ce qui s'est passé comme ça?
On ne prend que les bonnes nouvelles.
Oui, mais attendez.
Ça, les autres, je refuse.
Bon anniversaire à Donald Trump et Boy George.
Ils sont ensemble.
Allez. On avait dit les bonnes nouvelles.
Voilà. Et on boit le champagne ensemble. Oui. Allez, Donald, cul sec.
Do you really want
non,
to
il
ne
peut
me?
Pas. Parce que s'il fait cul sec, il y a la mèche qui part en arrière. Et donc il ne peut pas.
Vous parlez
de
Boy George?
Non, je parle de Donald. Excusez-le, mais c'est plus fort que lui. Eric Dussart tient absolument dans son Zapping Télé à nous parler de Kiki.
Bonjour à tous. Oui, Kiki, c'est pas du tout ce que vous croyez. Hein. Kiki, ouais. C'est le perroquet de Gilles et Martine. Et Kiki sème la zizanie dans ce couple. Parce qu'il n'y en a que pour Kiki.
Ah bon, très bien.
Vous allez entendre, c'est un petit drame. Et puis, anniversaire également de la naissance de Che Guevara aujourd'hui. Donc on entendra quelques spécialistes, dont celui qui pense que Che Guevara était une chanteuse.
C'est pas un cube de l'été.
Il y aura également le test à l'aveugle de Patrice Carmouze, qui en hommage lointain à René de Obaldia. Elle sera consacrée aux chansons qui ont pour thème le vent.
Voilà. Pas forcément dans les branches de Safra.
Et puis, nous recevrons Alexandra Cazan, qui est déjà là, pour le très beau livre consacré à son père, le photographe Lionel Cazan. Merci beaucoup. De participer. Je vous présente tout de suite notre invité. On revient toujours à ses racines et comme pour les arbres, plus elles sont profondes, plus les jeunes pousses sont vaillantes. Connaître d'où on vient pour mieux savoir où l'on va, cela vaut pour les peuples comme pour les artistes, surtout ceux dont la curiosité a été moustillée par des phrases mystérieuses entendues dans leur enfance. Lui qui se croyait longtemps le fils de l'homme invisible et qui ne connaissait rien de ses racines a effectué pour France 2 un incroyable retour aux sources, une odyssée vers ses origines, alors qu'il squatte plus que jamais le petit écran de service public. Eh oui, il jouera en direct une pièce du plus jeune esprit de l'Académie française, le presque centenaire René de Obaldia. Le 28 juin prochain, à 20h55, il sera aux côtés de Lionel Abelansky, Rachel Arditi, Urbain Cancelier, Anne Benoît, Stéphie Selma, François-Vincent Tellier, ils sont quelques-uns comme ça, pour jouer en direct du vent dans les branches de Sassafra. Il est venu ce matin sur RTL pour nous parler de la soirée spéciale qui lui est consacrée sur France 2 le 28 juin. Et nous recevons aussi celle qui a voulu rendre hommage dans un livre-album au magnifique travail photographique de son père Lionel Cazan, qu'elle a reconstitué comme un puzzle en assemblant des pièces comme des bribes de mémoire perdue. Avec nous, Alexandra Cazan et François Berléand. Alors, cher François, je vais commencer d'entrée de jeu. On parle du vent dans les branches de Sassafra, c'est une sorte de parodie de western. Et ben, je vous ai préparé une interview western.
Ah bah alors, allons-y.
Vous écoutez RTL.
RTL,
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Alors, avec François Berléand et Alexandra Cazan, je propose à François une interview western. Est-ce que vous êtes souvent à l'ouest?
Oh oui. Et pourtant, mes origines sont de l'Est.
Oui. Mais, mais dans quelles circonstances? Une distraction.
Oui, distraction. Grosse distraction.
Qu'est-ce que vous feriez pour quelques dollars de plus?
Pour quelques dollars de plus, qu'est-ce que
je feriez? Peut-être un accessoire dans votre Peugeot, mais...
Ouais, peut-être pas sûr. Non.
Mais il n'a plus de Peugeot.
J'ai plus de Peugeot. Il n'a plus de Peugeot.
Il a plus de Peugeot.
J'ai vendu ma Peugeot.
Quel bon ambassadeur.
Non, je mettrais, peut-être des... un autoradio, oui. À cassette.
Il n'y a plus de manche-disque. Dans les autoradios modernes, maintenant, les nouvelles voitures... une chanteuse ici. Je me dis, tiens, je vais écouter dans la voiture. J'ai cherché le trou à la fin.
Où le trou, j'ai jamais.
Mais heureusement, il a laissé sa machine à écrire. Du coup, il est très heureux.
Et donc, je ferai ça pour
Pour
quelques heures de plus, je mettrai un cassette, radio cassette.
Le milieu du cinéma, c'est souvent règlement de compte à OK Corral?
Non.
Non.
Franchement.
C'est une vraie famille.
Oui. Comme la famille Rockefeller.
Ah oui.
Non, parce que dans la pièce,
c'est
Rockefeller, mais avant
d'être
riche.
Avant l'argent, oui.
Juste avant d'être riche.
Vous considérez comme un mercenaire?
Oui. Et un samouraï aussi.
Ah oui, bien. Et parfois comme un salopard?
Non, je ne suis pas un salopard. Moi, je suis un mec formidable. Là, par contre, là, j'ai une honnêteté, je suis droit. Pas de...
Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des charges fantastiques?
Plus maintenant. Plus maintenant. C'est terminé, ça. Avant, ça oui. Gênant. Maintenant, non, c'est fini.
Est-ce qu'il vous arrive de dire parfois « mon nom est personne »
Oui. Comme je suis le fils de l'homme invisible,
oui.
Quelquefois mon nom est personnel.
Est-ce que vous avez pu avoir le sentiment que le train avait sifflé trois fois et que vous n'étiez pas monté dedans?
Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois.
Vous avez refusé des rôles?
Oui, j'ai refusé des rôles, j'ai refusé de rentrer dans des troupes prestigieuses.
Donc,
là, pour le coup, oui.
Est-ce qu'il peut vous arriver d'être desperado?
Non.
Non.
Je suis trop gay dans ma tête pour avoir ce problème.
À choisir, vous préféreriez être le bon, la brute ou le truand?
La brute. J'aimerais être une brute.
J'adorerais ça. Il vous jette un regard quand il dit ça, je serais inquiet à votre place.
En plus, dans le film, il est...
Et j'aurais trouvé une pour conclure. Vous chantez parfois du Franck Alamo?
Vous avez chaud ma biche.
C'est là qu'il va se transformer en brute.
Crayon noir, tes jolis yeux.
Hey, comme quoi, hein.
Vous avez évité ce que vous dînez au Buffalo Grill. Hein.
Oui, c'est vrai, ça j'ai évité.
Ah, pas de pub.
Merci beaucoup. On va retrouver Alexandra Cazan et François Berléand. On va parler de ce John Emery Rockefeller.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern,
à la bonne heure,
sur RTL.
Eh bien justement, bonjour John Emery Rockefeller, c'est le nom de votre personnage, dans la plus célèbre des pièces de René de Obaldia, au nom génial du vent dans les branches de sassafras. Alors tout le monde connaît ce nom, et on ne sait pourtant pas que c'est du sassafras qu'est né la MDMA, qu'on connaît mieux en France sous le nom d'Ecstasy.
Oui. Ah oui,
oui. C'est le sassafras qui produit l'extase.
Oui. C'est pas vrai.
Oui, bien sûr. Enfin, est-ce que vous en avez pris avant de jouer la pièce?
Non. Non, mais je ne savais même pas que.
Ah oui, mais
on va faire un petit test maintenant.
Oui. Voilà, un petit test.
Alors, la pièce a été créée.
Le sassafras, tout le monde connaît.
En 1965, Michel Simon jouait le rôle de Rockefeller. Il y avait un jeune acteur dans la distribution qui était Bernard Murat. Le même qui vous met en scène. Alors, cette pièce, c'est Obaldia lui-même qui le dit, que c'est une parodie de western, un western de chambre, dit-il. Et l'histoire revue et corrigée par Obaldia, de l'histoire des Rockefeller, au temps où les Rockefeller n'avaient pas un dollar en poche.
Voilà. Non seulement ils n'avaient pas de dollar, mais étaient des gens absolument épouvantables. Voilà, qu'on n'a pas envie de côtoyer.
Ah oui.
Voilà, incestueux, enfin des rapports incestueux entre... Peut-être pas le père et sa fille, mais en tout cas le frère et la sœur.
Ça veut dire que l'argent arrange tout?
Donne une certaine éducation pour la génération d'après, en tout cas.
Oui. Oui. À la base, c'était pas des gens bien.
Au départ, non.
Les Américains, ils sont tous commencés comme ça. Un peu,
oui, hein, ils ont tous commencé.
Regardez
Trump.
Trump. Mais il a mal fini, lui. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce? Qu'est-ce qui vous a le plus amusé et intéressé?
De jouer un western. Jouer un western... Voilà, c'est la seule pièce, je pense, dans l'histoire du théâtre mondial. Je pense que c'est la seule pièce où ça traite d'Indiens, de cow-boys. Donc voilà, moi j'ai jamais joué évidemment de cow-boys parce que c'est pas
notre culture en France, oui,
culture française des cow-boys. Donc voilà, donc avant de mourir, je me dis tiens, jouer un cow-boy, pas plus mal.
Il y a le clip des Village People si vous voulez tourner un remake éventuellement aussi.
Ouais,
c'est
peut-être.
Une possibilité pour devenir l'Indien.
Absolument.
Alors, les personnages, il y a le cow-boy sans peur et sans reproche.
Oui, ça c'est François Vincentelli. Non, oui. ça c'est Vincentelli. Le vrai cow-boy.
Le vrai cow-boy.
Moi je suis plutôt, je suis pas un cow-boy, je suis un agriculteur.
Oui, mais enfin,
vous êtes propriétaire terrien.
Voilà. Vous n'êtes pas méchant. Vous êtes.
Non, je suis pas méchant.
Terroyac du
Votre femme qui est voyante.
Oui, qui est voyante. Qui voit tout ce qui se passe.
Vos enfants qui...
Il n'y en a pas un pour relever l'autre.
Ah non, ça. La prostituée au grand cœur.
Voilà, qui est ma... On va se rendre compte que c'est ma fille.
Oui, voilà. Oui. Et le shérif justicier.
Le shérif justicier. Mmh. C'est lui que j'appelle le cow-boy.
Oui, c'est ça. C'est... Ouais, alors, lui, c'est vrai que...
Et l'Indien.
Et l'Indien.
C'est très important, l'Indien. Lionel Abelansky, qui est...
Alors, il y a la langue d'Obaldia.
Oui.
Nous, on a eu la chance encore de recevoir ici, de faire une émission avec René de Obaldia. C'est un monsieur absolument délicieux, qui a une langue extraordinaire. Et est-ce que c'est amusant à jouer, je suis sûr?
Très. C'est un peu dur à apprendre.
Oui.
Alors c'est peut-être l'âge qui veut ça maintenant. Je me dis que tout est dur, mais enfin, franchement, c'est pas simple. Mais une fois qu'on l'a en bouche, c'est assez extraordinaire.
Alors c'est ce qui est difficile. Elle est dure à prendre et vous ne la jouez que deux fois.
Ouais, quatre fois au total.
Ouais, ouais. Mais vous l'avez joué deux fois avant de l'enregistrer pour France 2.
Voilà.
Enfin, l'enregistrer, non.
Il y a
une captation au cas où il y a un problème technique, voilà, le jour de la diffusion. Oui. Mais vous êtes en direct le 28 juin à 20h55. Alors, c'est un exercice auquel vous êtes souvent confronté, parce qu'on vous distribue souvent. Il faut dire que votre nom amène des téléspectateurs.
Je ne sais pas si c'est mon nom ou pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver
c'est
des comédiens
différent.
Que... Oh oui, c'est très, très différent. Oui. En plus, moi, j'ai fait la première véritable, parce que au théâtre ce soir, c'était des montages de plusieurs représentations. C'était pas du direct. Là, le direct, c'est vrai que c'est particulier, parce que...
Il y a des caméras qui... Vous avez moins d'espace, d'abord, parce que les caméras sont un peu partout.
On joue aussi pour la caméra, aussi pour le public, mais aussi pour la caméra. Donc c'est un...
Mais c'est une excitation particulière
c'est
d'être en direct devant plusieurs millions de téléspectateurs de France 2.
C'est une adrénaline.
Ah oui, c'est terrible.
Ça fait une grande salle, 3 millions quand même. Hein.
Oui. Mais ça peut être 3, mais même 1 million, c'est énorme.
C'est
2, 3, 4, 5, il y a eu 6, 7, il y a 8 millions déjà.
On va en parler parce qu'il faut dire que vous êtes maintenant incontournable sur France 2. Puisque toute la soirée vous est consacrée.
C'est une thématique.
On va vous retrouver aux côtés de Marie Drucker pour un documentaire qui vous est consacré, Retour aux sources, dont on va parler dans un instant et qui peut concerner également Alexandra Cazan qui est à vos côtés.
Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Avec nous, je vous l'ai promis, on retrouve Cyprien Cini.
Pas Cinette. Cyprien Cini.
Vous voulez nous parler de l'euro?
Oui, de l'euro notamment. Alors, on a vu pas mal d'images, pas très brillantes images d'ailleurs, de supporters depuis le début de l'euro. Alors, il y en a quand même qui ont sauvé l'honneur, ce sont les supporters nord-irlandais. Les nord-irlandais, tout de vert vêtus, qui ont égayé les rues de Nice avant-hier. Une parade sans violence, mais avec une chanson reprise en boucle sur les réseaux sociaux. Les nord-irlandais dans les rues de Nice, dimanche, ça donnait ça. Alors, on va vous mettre la vidéo sur le compte Twitter de l'émission. Vous avez effectivement reconnu Gala, Freed from Desire. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, les supporters nord-irlandais ont détourné les paroles. C'est un chant à la gloire de leur attaquant, Will Griggs. Alors, c'est un attaquant qui marque jamais, faut savoir, il est toujours sur le banc, mais c'est pas grave, il l'adore. Les paroles signifient « Will Griggs est en feu, votre défense est terrifiée », à part qu'il bouge jamais du banc. La chanson cartonne tellement que même les supporters des autres pays commencent à la reprendre, les Polonais, les Suédois, avec le nom de leur attaquant. Et alors, c'est en train de devenir la chanson de l'euro, elle est tellement reprise et fonctionne tellement bien que le supporter qui l'a inventée s'est vu offrir un an d'abonnement au stade de Wigan, là où joue Will Griggs habituellement, c'est en 3e division anglaise. Et il a même sorti un disque, et la chanson des supporters nord-irlandais a fait un tel buzz que la semaine dernière, elle se classait 8e du classement iTunes en Irlande du Nord. Alors si très objectivement, les Irlandais du Nord ne risquent pas de gagner l'euro, ils peuvent peut-être essayer de devenir les meilleurs supporters de ce championnat.
Oui, ou alors concourir pour l'Eurovision, s'ils veulent chanter.
Voilà, mais pourquoi pas, je ne sais pas vous le dire.
Oui, donc. C'est une possibilité.
Ce qui est fou, c'est qu'ils chantent juste ensemble.
Ouais. Souvent, quand les gens chantent ensemble, c'est juste.
Mais alors, du coup, qui va payer les droits à David Guetta pour le chanson officiel de l'Euro?
Ça, c'est sûr que c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué.
On parle encore football, mais alors ce coup-ci, il y en a un qui va se faire passer un savon, un gros même, ça se passe aux États-Unis, où a lieu en ce moment l'équivalent de l'Euro de foot, mais version continent américain, ce qu'on appelle la Copa América. Et là-bas, Adidas sponsorise l'équipe de Colombie. Donc pour cet événement continental très important, la marque a mis le paquet sur le marketing en faisant des affiches géantes avec en photo les stars de l'équipe de Colombie dans leur beau maillot tout neuf Adidas. Et un seul mot en énorme qui barre les affiches, ce mot c'est Colombia. Sauf que chez Adidas... Mais ils n'ont pas dû relire avant d'envoyer les affiches à l'impression. Ils n'ont pas dû relire après impression non plus. Puisqu'ils ont placardé les affiches sur lesquelles Columbia est écrit Columbia avec un U à la place du O. Et Columbia, c'est comme la navette, en fait. Et donc, c'est grotesque. Dans toutes les boutiques Adidas, alors évidemment, ça s'appelle un fail. Le fail va coûter très cher à Adidas, qui s'est excusé, qui va devoir refaire et changer toutes ses affiches. Et puis, niveau image de marque et sérieux, c'est pas vraiment la meilleure publicité pour la marque.
Ça, comme vous dites. Et si vous en avez, comme moi, un peu déjà marre de l'euro, eh bien, il y a une application qui peut vous sauver votre journée.
Mais oui, si vous en avez déjà marre. Déjà, bonne chance, Stéphane, parce que ça vient de commencer. On en a jusqu'au 10 juillet avec l'euro. Mais bon. si vous voulez plus voir Euro nulle part sur vos écrans, etc., c'est pas compliqué, je vous invite à télécharger l'application lancée par Merci Alfred. En gros, une fois l'application installée sur votre ordinateur, dès que vous irez sur un site internet, le mot euro sera remplacé par le mot tartiflette. Alors ça marche sur tous les sites. Hop, vous allez sur RTL.fr. Au lieu d'avoir écrit Euro 2016, l'Allemagne assure, vous avez tartiflette 2016, l'Allemagne assure. Alors concrètement, ça ne sert absolument à rien, mais c'est rigolo. Surtout si vous l'installez en cachette sur l'ordinateur de votre collègue de bureau, fan de foot, entre midi et deux, là, tout à l'heure.
Encore un pépin dans la tartiflette.
Voilà, et de passer une bonne partie de l'après-midi à comprendre ce qui se passe. Ça peut être amusant.
C'est le cas aussi pour les sites de banque. Quand on va consulter son solde de compte, on va
voir qu'on a une tartiflette. Certainement. Ça marche sur tous les sites. Donc, j'ai pas essayé.
Vous êtes à moins 200 tartiflettes.
J'ai pas essayé, mais je suis sûr que ça marche.
Très bien. Les supporters de tartiflettes vont se battre entre eux.
Merci Cyprien Signy. On vous retrouve sur RTL.fr. On va évidemment retrouver nos invités dans un instant, Alexandra Cazan et François Berléand.
Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Alors François, je le disais tout à l'heure avant Cyprien Signy, France 2 vous propose aussi, on va voir après la pièce qui sera en direct le 28 juin, il y a un retour aux sources avec Marie Drucker. Alors racontez-nous comment ça s'est passé, parce que c'est une nouvelle série documentaire proposée par Arnaud Poivre d'Arvor, c'est très original, je crois que c'est adapté d'un format anglais, What Do You Think You Are, des personnalités se lancent à la poursuite de leurs origines, et c'est vous qui ouvrez la voie, la série. Comment ça vous a été proposé et pourquoi vous avez accepté?
Ça m'a été proposé certainement parce que Arnaud savait que j'avais des origines lointaines, et que évidemment plus on a des origines lointaines, plus c'est intéressant, je pense, au niveau de la généalogie. Moi, la phrase qui a été initiatique pour moi par rapport à cette émission, c'est que mon père, quand je lui ai dit que je voulais être comédien, m'a dit: tu reprends le flambeau. Or, il se trouve que j'avais connu ma grand-mère, ma babouchka, moi c'est russe, des juifs russes du côté de...
Oui, un peu comme avec les cendres.
Du côté de mon père. Et tu reprends le flambeau. J'ai connu ma babouchka, et ma babouchka, j'ai appris, une fois qu'elle était morte, qu'elle était comédienne. Donc il n'y a eu aucune transmission. Et son mari, de qui elle était divorcée, étant mort en déportation à Auschwitz, n'a évidemment pas pu transmettre quoi que ce soit. Mais ma grand-mère n'a jamais voulu parler de mon grand-père. Donc mon grand-père, je savais qu'il s'appelait Michel Berléand, parce que le vrai nom c'était Berléand, on s'est trompé l'état civil, mon nom est personne, on s'est trompé état civil pour mon père, le Berléand est devenu Berléand, voilà. Et mon père était le premier Berléand au monde, comme Adam et Ève, c'était... Et donc, de cette page vierge, c'est on suivit une espèce d'enquête absolument extraordinaire sur les origines de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, etc., etc.
C'est incroyable.
Donc c'est assez étonnant de...
Et ça a changé quelque chose
Complètement. Mais même jusqu'à un moment donné, je suis face à un spécialiste du théâtre yiddish, parce que j'ai appris que ma grand-mère était comédienne de théâtre yiddish, donc elle jouait en yiddish, et j'ai appris le pourquoi du comment, pourquoi je jouais avec des ruptures comme je le fais sans savoir pourquoi. Et puis, c'est cette façon de jouer toujours avec les mains, parce que je joue tout le temps avec mes mains. Et en fin de compte, c'est du théâtre yiddish. Donc, c'est assez étonnant. J'ai appris des choses sur mon jeu, sur moi, sur mon grand-père, qui était un être absolument incroyable. Et on apprend des choses, mais invraisemblables. Et là, franchement, le travail d'Arnaud aussi a été Poivre d'Arvor a été très surpris par ce qu'on avait trouvé. Parce que c'était un personnage absolument invraisemblable.
Et vous découvrez tout vraiment au fur et à mesure.
Au fur et à mesure. Ah oui, ouais. Oui.
Vous ne prenez pas avant du tout.
Ah non, je ne sais rien.
Découverte en découverte.
Ah, là, je peux vous dire, alors, je suis un acteur de génie, mais j'ai des moments où je suis abasourdi.
C'est fou, on a vraiment, vous donnez vraiment envie de regarder c'est
extraordinaire.
Le documentaire. C'est
extraordinaire.
Et le 28
alors,
juin.
Je ne sais pas si c'est extraordinaire que pour moi ou pour
tout le monde. C'est universel, tout le monde. C'est une passion française, la généalogie.
C'est important.
Oui. Alexandra Cazan, vous aussi, c'est un peu le travail que vous avez fait. Oui, vous connaissiez rien de votre père.
Mais non, mais ce qui est très étonnant, c'est que j'ai des connexions. Mon père était un fils d'émigrés russes et ma grand-mère était polonaise, ma babouchka à moi, qui était comédienne aussi, donc c'est assez amusant.
C'est le travail de votre père que vous ne connaissiez pas.
Oui, moi, c'est le travail
vraiment
de papa, mais c'est aussi l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un fils d'émigrés russes avec toute cette diaspora russe et tout ce qui n'a pas été dit, puisque papa parlait très peu. Et quand les gens ont souffert d'émigration, finalement, on se rend compte que la génération, enfin celle-là en tout cas, ne parle pas.
Oui, ce livre peut.
Tout est bouclé, verrouillé, et c'est très douloureux pour ce pour la génération d'après, c'est-à-dire la mienne, celle de mon frère, puisque finalement, c'est très peu de choses. Je ne sais pas pourquoi ma grand-mère a quitté la Pologne, pourquoi, dans quelles conditions mes grands-parents, arrière-grands-parents ont survécu en Russie. Alors maintenant, avec Facebook, tout à coup, je me retrouve du jour au lendemain avec tout un arbre généalogique qui m'apparaît, non, avec des cas en
Cef. Mais vous avez plein de cousins qu'on ne voulait pas avoir.
Je ne suis jamais allée ici, je ne les connais pas.
Et c'est comme François Berléand, je suis sûr que maintenant, vous allez tout plein de gens. Vous êtes en direct sur France 2 en prime time. Vous allez avoir des demandes de subsides de cousins du monde entier.
Non, parce que j'ai une famille, la famille Berléand, elle est en Angleterre. Donc déjà, moi, je parle pas anglais. Donc ça
résout.
Ça règle le problème.
France 2 n'est pas diffusée.
Ce qui est drôle, c'est comme l'émission...
Enfin, l'anglais, c'est écrit encore avec des lettres. Oui. Mais enfin, quand on vous écrit en cyrillique, je peux vous dire que vous arrivez à décoder Kazantsev.
Là, il n'ouvre même pas le courrier.
Ah oui, moi, j'ai vu mon nom en russe. Je ne savais pas, moi.
C'est drôle. Bon, on va y revenir. Dans un instant, c'est passionnant.
Vous écoutez RTL.
Maillot Express.
Oui, Régis Maillot.
Petite éphéméride du jour, c'est la journée mondiale des donneurs du sang. Alors, est-ce que vous donnez ? Moi, oui, dès que mon alcoolémie aura retrouvé une couleur homologuée par Bison Futé, évidemment, je vais donner. Je donne chaque année, moi, hein, c'est
combien
important.
De litres ?
J'envoie mes plaquettes chez Midas. Ça me fait marrer.
C'est drôle.
Non, mais c'est important de donner. Pourquoi ? Bah déjà, parce que chaque année, c'est l'occasion de croiser une infirmière en mangeant un petit gâteau sec.
Un sandwich ?
Ah, vous avez un sandwich, vous ?
Non, plus maintenant. Hein. Non. Restriction budgétaire.
C'est la crise.
Il faut vraiment donner, parce qu'il y a de moins en moins.
Il y a de moins en moins. On est vraiment en retard en France, donc il faut avoir le réflexe et bien en parler.
Moi, je donne mon sang, je vous dis tout de suite.
Pardon ?
Moi, je donne mon sang.
Très bien.
Vous donnez votre sang, mais à qui ?
À qui veut ?
À qui veut ?
À qui veut prendre ?
Parce que moi, je suis AB négatif, c'est rare en plus. Donc
ah oui, c'est drôle, mais on va en parler.
Vous êtes
aussi ? C'est drôle, je suis AB aussi. On est donneur universel.
Non, AB négatif, vous savez, AB négatif, c'est affreux.
C'est très rare.
C'est très rare.
Vous êtes rarissime.
Vous êtes receveur de rien du tout.
C'est beaucoup chez les gens de l'Est, AB négatif.
Oui, chez les Caucasiens.
D'ailleurs, enfin, caucasien de l'Est.
Ouais. Alors, puisqu'on parle du sang, il y avait une initiative formidable qui avait été faite par les pays nordiques, notamment. Oui. C'est quand vous donnez votre sang, vous recevez ensuite un SMS quand il a servi à sauver une vie derrière. Et ça avait beaucoup augmenté le nombre de gens qui étaient allés donner leur sang.
Et s'il a servi à rien,
c'est une super idée. En général, ça sert toujours. Et donc, vous étiez informé que ça servait et ça avait fait monter le nombre de dons.
Ah, c'est pas mal ça. Voilà pourquoi les bonnes idées. D'ailleurs, on les applique pas ici.
Avec les organes aussi. Quand j'ai eu mon rein, j'ai connu le nom de l'enfant.
Ah, mais voyez, vous dénigrez tout.
Il est tatoué.
Oui. Très bien. Donc, on a appris que vous étiez AB négatif. Oui. Et bien, on va continuer avec les rumeurs du net.
Les rumeurs du net.
En fait, pour rentrer dans un rôle, pour bien vous en imprégner, vous faites très attention au costume, la manière de s'habiller du personnage. Ça, c'est important.
Oui, oui. C'est primordial même.
Oui, oui.
C'est vrai qu'on est vraiment le personnage à partir du moment où on a le costume.
Oui. Et quand la costumière n'est pas prête et que...
Ah bah, elle est prête au moins le jour de la première. Non, mais on est...
Bah oui,
sinon c'est gênant.
Sinon on est mal. Oui. Mais c'est vrai qu'on trouve le personnage... Enfin, moi, le personnage définitif, il est trouvé, là.
Oui. Vous avez joué avec un autre Poivre d'Arvor.
Avec Patrick, un tout jeune acteur. Oui. On a joué ensemble cet hiver dans une pièce qui s'appelle Garde alternée.
Oui.
Qui a été coécrite par la pédiatre
Edwige Gentier
et Louis-Michel Collat. Et ça a été une très belle expérience
aventure,
avec Patrick. Oui, parce qu'il était, dès la première lecture, il était parfaitement juste dans ce rôle de pédopsychiatre. Oui, c'était très amusant comme expérience pour un tout jeune acteur.
Mais oui, bien sûr. Ouais. Enfin, ouais. Bon, en même temps, présenté pendant plus de 20 ans le JT, c'est
oui,
une forme
mais c'est pas,
de...
pas la même chose. C'est pas exactement non, la pas même pareil, chose, parce que quand on est sur scène, il y a aussi le déplacement, comment on bouge son corps. Voilà, c'est quand même... on se retrouve avec des comédiens... à qui on donne la réplique, enfin, c'est pas exactement le même.
C'est pas le même.
Parce que si sur scène il fait bonsoir.
Vous gardez un souvenir ému de l'hôtel du Palais à Biarritz. Vous avez une passion pour cet hôtel.
Oui. C'est terrible. Parce que ça fait vraiment très riche de dire ça, etc. Mais c'est... j'ai perdu mon pucelage là-bas.
Sans rire.
C'est vrai. Oui.
Où ça ?
Dans une chambre.
Depuis le
c'est chic.
Très chic.
Non, mais voilà. Pardon de le dire, mais voilà.
Sous un portrait de la princesse Eugénie.
Voilà.
L'impératrice.
Donc c'était... Pour moi, c'est une...
Oui.
C'est mythique.
Oui, c'est un retour aux sources.
Mais bien, de temps en temps, avec, avec madame, vous faites un petit week-end.
Non.
Non.
C'est pas possible.
En souvenir.
Respect.
Je vais seul.
Non, on n'y va pas.
C'est avec la vieille dame maintenant, parce que c'est vieille. Elle était beaucoup plus vieille que moi.
Allez, Berlion, remets ça. Allez, reviens. Je vais t'apprendre des trucs.
Depuis que vous faites des retours aux sources.
Ah oui, mais c'est pas possible. Ah, oui, mais là non. Ah, bah, non, oui, bah, non, bah, non. 72 ans, mon Dieu.
Ah. Oui. Bah, très bien, il a bien répondu aux rumeurs du net. On retrouve maintenant Éric Dussard.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec un mauvais souvenir.
Eh bien, un très mauvais souvenir même d'école pour ce candidat des amours, si l'on en croit ce qu'a raconté sa femme dans l'émission.
Olivier, Julie, connaît-elle top votre pointure?
Oui.
42.
La matière que vous détestiez le plus à l'école?
Oui.
Synthétique.
Ouais, il avait très mauvaise note en nylon, en polyester, tout ça. Il était nul, le gars. Se prenait les cartons. En revanche, il était super bon en coton.
Je suis sûr qu'il est comme nous. Vous avez des soupules comme ça.
C'est
ça.
C'est réminiscence, effectivement, de cauchemar.
La matière qu'elle détestait à l'école.
C'est synthétique.
C'est génial.
C'est extraordinaire.
C'est merveilleux.
Attendez. Extraordinaire. François, c'est pas la première fois. Manifestement, il y a un problème avec cette question dans les amours. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de réponse quand il la pose. On avait déjà eu ceci il y a quelques temps.
Donc, normalement, vous devriez pouvoir gagner cette finale. Attention, on est reparti. Laure, Jérôme, connaît-il top la matière que vous détestiez le plus à l'école?
Le buvard.
Et une sale note en buvard, ça peut te planter un examen. Hein. Je le rappelle d'ailleurs à ceux qui commencent le bac demain.
Ça existe
encore. Ne faites pas l'impasse.
Non.
Oui, en plus, c'est assez daté comme réponse. Non, le buvard, ça se fait un peu moins quand même. Hein. Bon, après les amours, place à d'autres amoureux. C'est un triangle amoureux.
C'est difficile de retrouver des buvards. Buvard,
oui, ouvrons le débat. Non, mais
c'est...
Appelez-nous.
Non, mais c'est vrai.
Parce qu'il y a tant de personnes qui m'aiment.
Moi, j'écris encore à l'encre.
Pourquoi j'ai lancé là-dessus?
Vous écrivez à l'encre.
C'est idiot.
C'est idiot.
Je me suis auto-planté.
Mais c'est comme les carbones.
Le buvard comme ça.
Le carbone, on n'en trouve plus. C'est très bien le buvard, une petite astuce. C'est pour enlever de la bougie.
Oui.
Si vous avez un problème de.
Mais comme on trouve plus de buvard.
Et bien, on garde ses tâches
de bougie. Et de manger.
Donc l'électricité a fini le bouchon.
Il est qu'un full camp, ma bonne dame.
Ouais,
alors, allez-y.
Et mon garde-manger, moi.
Je trouve plus. Triangle amoureux, je vous le disais, très particulier. Celui que forment Gilles, Martine et Kiki. Kiki, c'est le perroquet de Gilles. Ce Kiki, c'est le plus beau de tous les Kiki pour Gilles. Au point qu'il l'emmène même son perroquet au restaurant. Et tant pis pour Martine si ça ne lui plaît pas.
Et pour les autres clients, surtout. Ouais.
Bienvenue dans Confessions Intimes, naturellement. Il n'y a que chez eux que l'on voit ça.
La sieste de Kiki tire à sa fin. Pas question de le faire attendre.
Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour que le Kiki puisse manger un peu aussi, tu
vois? Non, Kiki, il va manger ses graines, hein.
Tu veux que je te mette des graines aussi, hein?
Oui, mais...
Eh ben non, c'est quand même un moment tranquille où on peut se faire plaisir. Kiki aussi a le droit d'avoir un petit peu de plaisir aussi.
Il mangera un petit morceau de gâteau.
J'ai beaucoup d'affection pour Martine et de l'amour, mais c'est, voilà, c'est à demain de dire, voilà, tu dois choisir. Je choisirai Kiki.
Voilà. C'est Kiki, l'amour de sa vie.
Ça a le mérite d'être clair.
Voilà.
Mais c'est des vrais gens, confession
intime. On le craint.
C'est pas des comédiens qui ont écrit des vrais gens dirigés,
généralement.
Par contre, Kiki est un faux perroquet.
Ouais. Pauvre Kiki, il doit déguster l'amour
mais
de la vie de Gilles.
Mais comment vous pouvez préférer? Moi j'adore les animaux, mais de là.
Posez-vous cette question.
Pourtant j'ai vu madame, franchement elle se défendait bien. Donc je comprends pas. Effectivement c'est très étrange.
Les perroquets se défendent peut-être mieux.
Ouais. Bah, j'espère pour lui, parce que si Gilles lance l'assaut amoureux,
c'est câlin.
Il n'a pas fini de chanter le perroquet.
Bon. Allez,
un peu de romantisme maintenant avec cette très belle histoire qui nous a été racontée par une candidate de Money Drop sur TF1.
Oui. Tu m'as proposé le mariage sous la tour Eiffel à Paris.
Ah bon?
Bah oui. C'était super romantique. C'était après quelques temps notre connaissance et il a décidé de me proposer le mariage et on s'est vu pour le travail ici à Paris. Il m'a pris sous la tour Eiffel.
Il vous a pris sous la tour Eiffel?
Non.
Bah les touristes qui étaient là, ils ont dû se régaler. Hein. Je peux vous dire que les Japonais, ils ont dû en faire des photos ce jour-là. Hein.
La nuit.
Vous imaginez si ils racontent ça à leurs enfants? C'est une belle anecdote, un poil gênante. Mais j'ai encore beaucoup plus gênant, un lapsus très très embarrassant. Il y en a qui sont gênants, mais alors celui-ci, c'est le top du top. C'était dans Midi en France, sur France 3.
Et ils voient l'attitude que vont avoir les étudiants, s'ils vont être capables de faire les gestes idéaux, de réagir correctement.
C'est comme un simulateur de vol pour les...
Des gestes idéaux.
Oui, mais le plus gênant, c'était quand même simulateur de viol, vous n'avez pas relevé? Simulateur de viol. C'est irrattrapable. Hein. Quand tu dis ça, tu n'as plus qu'à t'enfoncer dans le sol.
Stéphane relève les fautes d'orthographe.
Non, c'est très énervant.
Oui,
c'est vrai que c'est très énervant. Un enchaînement gagnant maintenant.
Oui, ce que vous allez entendre, frise la perfection, c'était sur la chaîne Info iTélé. On a eu un très joli combo. Ça commence avec une journaliste qui s'étouffe, et qui du coup donne prématurément la parole à une envoyée spéciale qui, elle, n'est pas prête. Elle ne sait pas qu'elle est en direct. Double bingo, on appelle ça.
Conférence de presse de Didier Deschamps à suivre dans Un Garde. Pardonnez-moi. Et l'engouement du public est là. La fan zone du Champ de Mars a ouvert ses portes cet après-midi. Myriam Okawa.
Des supporters de l'Euro.
Oui, pardonnez-moi, je croyais pas que j'étais en direct. Excusez-moi. Donc,
Si, tu es en direct et pour un petit bout de temps, à mon avis, hein, parce qu'elle va se vider la fontaine d'eau qui est dans le couloir. Elle n'est pas prête de revenir. Enchaînement gagnant. Sinon, sur iTélé, on a aussi eu un journaliste qui nous a fait un petit blackout en direct. Il a eu un bug. C'est-à-dire qu'il avait bien une question à poser à son invité. Le problème, c'est qu'il n'avait pas la fin de cette question.
Vous êtes donc le plus âgé de ces bénévoles de l'Euro. Qu'est-ce qui vous motive encore à aider à la
bonne heure. Nous, c'est à la bonne heure. C'est ce que tu cherches, c'est à la bonne heure.
Si ça arrêtait, qu'est-ce qui vous motive, ça marche.
Bah ouais, il n'a pas besoin de se donner du mal, en fait.
Aider, ça va.
Bah oui. Non, il a voulu se compliquer la vie, mais voilà.
Et on termine avec l'anniversaire du jour.
Aujourd'hui, 14 juin, Che Guevara aurait eu 87 ans. Et ce qui est frappant, c'est 49 ans après sa disparition, et bien tous les candidats de jeux télé se souviennent encore parfaitement bien de lui, que ce soit dans le maillon faible ou encore chez les rois du shopping sur M6.
Alors comme ça, vous vous prenez pour un truand, Paul.
Moi, je suis fan de Che Guevara.
Che Guevara, rien que ça. Samuel s'en impose.
Je vois à peu près qui est cette chanteuse.
Isabelle, quel était le prénom de Che Guevara?
Che.
Exactement.
Oh, eh oui. Ah,
d'ailleurs, c'est pas qu'il l'appelait comme ça, il l'appelait juste Che. En toute simplicité.
Ernesto. Mais on disait le Che. Merci
le Che. Moi, j'ai tourné à Cuba.
À Cuba, oui.
Et il y avait un médecin dont le prénom était Che.
Ah, mais c'était peut-être ce monsieur.
Mais c'est peut-être, voilà, c'est peut-être ça, absolument. Et qui était chanteuse.
Et voilà. On va retrouver François Berléand et Alexandre Cazan pour la suite de La Bonne Heure dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Merci beaucoup, Marie Guerrier. On retrouve tout de suite nos invités dans La Bonne Heure, François Berléand et Alexandre Cazan. François Berléand, parce que. Il est au Théâtre du Vent dans les branches de Sassafras. C'est le mardi 28 juin en direct sur France 2 à 20h55. La soirée présentée par Virginie Guillaume. Et ensuite, avec Marie Drucker, retour aux sources. On vous emmène sur les traces de votre arbre généalogique et de votre famille. Et puis, Alexandra Cazan, on va parler d'un livre dans un instant, un formidable livre de photographie. C'est l'histoire de votre père, Lionel Cazan, grand photographe, et raconté par vous avec vos mots, Alexandra, et c'est aux éditions Liénard. Mais d'abord, j'ai la question imposée à poser.
La question imposée à poser.
C'est une enveloppe qu'on m'a tendue pour vous.
Pour moi ?
Je crois. Je ne sais pas, je n'ai pas ouvert l'enveloppe.
Et Alexandra est...
Peut-être que...
Est-ce que vous êtes déçu que la pièce Momo que vous jouiez avec Muriel Robin et qui en était la grande favorite...
Il ne lit pas la fin de la question.
Et qui en était la grande favorite...
N'a pas été
récompensée au Molière. Non, je ne suis pas déçu. Mmh. Vous savez, elle a été nommée, c'est déjà important d'être nommée. Après, l'avoir, pas l'avoir,
C'est la profession qui vote.
Oui, c'est la profession, mais quand on sait que c'est pas vraiment la profession. C'est pas très simple. Les Molières, il faudrait
remettre un peu d'ordre. Vous avez exactement dit ce qui se passe.
Mais très bien. Voilà, il faudrait que ce soit plutôt les critiques qui votent, parce qu'au moins, eux, ils ont tout vu, ce qui n'est pas le cas.
Il vaut mieux pas de Molière à des spectateurs, ce qui a été largement le cas.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, voilà, grande soirée théâtrale sur France 2 le 28 juin. On va parler dans un instant de photographie et de Lionel Cazan avec sa fille Alexandra. Mais d'abord, c'est le moment important, c'est Patrice Carmouze et son quiz à l'aveugle.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern
à la bonne heure
sur RTL.
Ouais, Patrice, on vous a mis la pression. Là.
Ouais, là c'est terrible.
Là, c'est donc, ce des sont chansons des... qui sont dans le vent.
Sur le vent, pour Thème le vent.
Ah, qui ont du vent dans les branches.
Pour Thème le vent. Voilà. Alors, il faut reconnaître qui chante.
Il n'y en a pas des masses. Hein.
Ah, il y en a pas mal.
C'est très court.
Là, vous jouez avec Alexandra et François et Stéphane contre le reste du monde.
On commence
très fort. Voilà.
Il y aura peut-être ça, mais on commence par ça.
How many roads must be made?
Bob Dylan.
Blowing in the Wind.
Bob Dylan.
Bravo. Alexandra, un point.
Yay.
The answer to my friend.
Allez, c'était Richard Anthony en français, je préfère le faire.
Merci beaucoup. Ah, on vous en remercie encore.
Voilà. Merci. Et Marlène Dietrich a chanté en allemand.
En allemand, oui, ça s'est chanté dans toutes les langues.
Deuxième extrait.
Noir désir.
Noir désir, oui.
Le vent nous portera.
Très belle chanson.
Très belle chanson.
Nous portera.
Alors peut-être un peu plus compliqué, est-ce que vous vous souvenez de lui?
Car qui sème le vent?
Ah bah oui, ah,
c'est cela.
C'est cela.
Ah, tant plus, hein.
Qui
sème le vent? Qui sème le vent égale le tempo.
Le tempo, absolument.
Écoutez, attendez, je vais.
Fils et de clou d'MC, Solar vous invite dans les rap parties. Car je suis un MC d'attaque, sans dick authentique, pas en toque. Prêt à frapper tes levées pour le mouvement hip-hop. Coûte que coûte, j'écoute et je goûte. Cette solution aqueuse qui les rend.
C'était le premier rappeur, hein.
Il y avait une chanson qui était faite sur la mode qui était pas mal.
Victime de la mode, t'as les sonnants de code. Ouais.
Voilà, victime de la mode. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qui s'appelle Alexandre. Elle me dit, MC Solar, tu veux descendre? Je lui réponds, bouge de là.
Bouge de là, la première.
Il y avait Caroline aussi.
Caroline.
Gage de trèfle qui pique ton cœur.
Ah, ouais, c'est bien, ouais, c'est ouais, beau, ouais, MC.
Mais qui reviennent.
Oui, faut, bah, je crois
donnez-nous des nouvelles
d'MC. Je crois qu'il vit bien. Tranquille, bien, je crois. Oui, ouais, très bien.
Oui,
cool des jours heureux, comme on dit.
Très bien.
Autre extrait.
Gypsy King. Gypsy King, c'est ça?
Oui. Et ça s'appelle
Le vent de la reine.
Viento de la reine.
Ventilo.
Viento. Ça c'est très facile.
Si par hasard,
ah bah oui. Par hasard quand arts, même du nom.
Tu croises ouais. le vent.
J'ai reconnu Brassens.
Oui, c'est beau, c'est bien. François Berléand, bravo.
L'avant, je ne connaissais personne.
Mais c'est quoi le titre?
Du vent.
Ça s'appelle le vent, tout simplement.
Les gens foutent et les gens propres.
Elle est très jolie cette chanson. Elle était dans le.
Il rebrousse les bois, les trousses,
films,
les bois, retrousse les robes.
Autre extrait.
Je voudrais que tu m'as.
Vous attaquez.
Vous attaquez.
Je t'emmène au vent.
Ah oui, je t'emmène au vent.
Parfois le vent.
C'est fort, hein.
Et je voudrais.
Moi, j'écoute tout le temps la musique. La radio. On n'a aucun mérite, c'est ça,
ça celle-là, non, là,
bien sûr. Hein.
Bon, ça, évidemment, vous ne pouvez pas passer à côté.
Vive le vent d'hiver.
Voilà.
Ouais. J'ai fait la version américaine. Vous savez qui a traduit les paroles en français?
Oui, évidemment.
Qui? Francis Blanche.
Et voilà.
Vive le vent d'hiver. C'est de Francis Blanche.
Salaud.
Ah, bah.
J'ai cru que vous aviez même une chose qui ressemble au choriste. Parce que vous savez, ça va être plus énervé.
Non.
Quand on entend ça.
Non, j'ai mis ça.
Ils sont pas loin.
Céline Dion et Garou.
Garou et Céline Dion.
Et Céline Dion, un peu. D'ailleurs, il a pris un coup de clim.
Sous le vent.
Ah ouais.
Donc il y en a pas mal, quand même.
Bah oui, il y en a pas mal, finalement.
Oh, mais il y en a encore d'autres.
Et celle-là, c'est pour François, il va reconnaître. On va le laisser.
C'est un fameux trois mains, ah ouais. Commun.
Oh, je l'adore.
C'est un
beau frère. Un frère. Cinquième. Eh ben bravo. Très bien.
Ah mais je pensais qu'il y en aurait une autre. Marie Laforêt, elle chantait une très jolie chanson.
Elle a chanté le vent?
Oui.
Oui.
Très jolie chanson.
C'était quelle chanson?
Le vent, je sais pas quoi.
Le vent.
Il y a du vent, non, je sais pas. Dans ma maison, il y a du vent.
Mistral gagnant.
Mistral gagnant,
pas mal.
Comme un ouragan.
Un ouragan de Stéphanie de Monaco.
On peut en parler hors antenne.
Vous écoutez RTL. RTL à la bonne heure. Stéphane Bern.
Alors je vous l'ai dit, François Berléand va jouer du vent dans les branches de Sassafra mardi 28 juin 20h55 sur France 2 avant un documentaire, une sorte retour aux sources avec Marie Drucker produit par Arnaud Poivre d'Arvor. Mais Alexandre, on voulait vous faire venir pour ce livre magnifique Lionel Cazan 1930-2016, c'est vous raconter l'histoire de votre père à travers ses photographies. Ce qui est troublant, c'est que, un peu comme François Berléand, vous êtes parti à la retrouver vos racines aussi.
Oui, enfin, un petit peu. Ça a été une partie de la démarche. C'est-à-dire que lorsque papa est tombé malade, j'ai pu enfin avoir accès à son matériel photo que je ne connaissais pas.
Parce qu'il gardait ses photos très
secrètes.
Oui,
papa était quelqu'un de très secret. Il ne parlait pas de son enfance, il ne parlait pas de son travail. Il faisait son travail, il le faisait très bien d'ailleurs, d'après maman. Mais moi, quand j'étais petite à la maison, on n'en parlait pas. C'est-à-dire que
vous entendiez, vous racontez entendait... que vous voyez passer de très belles femmes qui venaient se faire photographier chez vous.
On voyait passer les mannequins, les rédactrices de mode qui étaient toujours incroyablement bien habillées. Et on entendait, à l'époque, il y avait, pour éclairer, c'était des balcars, on appelait ça. Et alors j'entendais les déclics et tout ça était très tamisé, très mystérieux. Mais on n'en parlait pas à table, on n'en parlait pas dans notre vie de famille.
Et vous ne connaissiez même pas les photos en gros.
Non, j'en connaissais très peu, mais très peu. Et j'ai donc découvert dans une grande boîte Eastman Kodak des tirages magnifiques qu'il faisait lui-même. D'ailleurs, il passait, j'ai le souvenir enfant, qu'il passait des journées entières dans son labo. Et puis j'ai tiré la bobinette, je suis allée aux archives de Elle. Je pensais y passer 2 heures, j'y ai passé 4 jours entiers. J'ai découvert des trésors. Alors c'est à la fois, bien sûr, l'histoire d'un homme, de mon papa, qui est un fils d'émigré russe. Son vrai nom, c'est Liev Danielevitch Kazantsev, dit Lionel Kazan, c'est quand même plus facile à prononcer dans le métier.
Votre grand-père est un russe blanc, hein, c'est ça ?
Mon grand-père était un russe blanc, qui a fui la révolution. Et ma grand-mère polonaise et mon grand-père se sont rencontrés sur la Côte d'Azur. Il y avait toute cette diaspora russe, dont Romain Gary et sa maman. Mmh. D'ailleurs, papa a photographié des gens dont moi je suis totalement en fan, Romain Gary, Françoise d'Orléac, qui était mon actrice culte, et j'étais totalement à des photos de Catherine Deneuve. Et Bardot, qui sont les deux femmes les plus photographiées au monde, mais sont des photos totalement inédites, en tout cas, qui n'ont pas beaucoup circulé. Voilà, ce sont des photos qui sont à la fois, qui retracent une époque aussi, une époque où la mode était joyeuse.
C'est la fin des années 50, à la fin des années 70.
Mi-50, c'est-à-dire que les premières photos que je retrouve, papa était laborantin chez Vogue, à Condé Nast, et il a été l'assistant de photographes très prestigieux tels que Honeyman, qui ne voulait que papa pour ses tirages, et la première couverture qu'il fait,
c'est
pour Elle, et il a 23 ans quand même. Voilà. Alors c'est une époque, alors je suis allée à la recherche aussi des gens encore en vie, j'ai pu interviewer Bettina Graziani. C'était une enquête.
Une véritable enquête, Et parce qu'au fond, c'est comme une part de... Comme, en plus, il a été frappé à la mémoire, c'est-à-dire à cette part de...
Oui, papa perdait sa mémoire et moi, je courais dans le sens inverse pour essayer de retrouver cette mémoire. J'essayais de lui poser des questions parfois, mais je n'avais pas beaucoup de réponses. Et donc, j'ai essayé de réparer. Voilà, j'ai fait un travail de mémoire sur à la fois son histoire, son travail, qui est un très très beau travail. Et d'ailleurs, justement, vous parliez du théâtre, et à la Générale, quand on a joué Garde alternée avec Patrick Poivre d'Arvor, Jean-Daniel Lorieux, le photographe, faisait partie du public, et très gentiment, il est venu vers moi. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Il m'a dit: comment va votre papa? Alors, je dis: parce que papa est mort au mois de février dernier, sans avoir pu voir le livre. Et il m'a dit: moi, si j'ai voulu être photographe, c'est pour Avdon et Kazan. Et j'ai trouvé que c'était tellement joli. Enfin, voilà, je l'ai reçu vraiment comme un cadeau venant de Jean-Daniel Lorieux. Et donc voilà, j'ai voulu remettre ces photos en lumière, et puis j'ai voulu aussi raconter une époque joyeuse. C'est ce que disait Bettina Graziani ou encore Jean Feldman, le grand publicitaire, qui me disait: on vivait une époque formidable, on s'en rendait pas compte. La mode était
belle,
c'est
quand on a perdu les choses qu'elles nous paraissaient encore plus belles, bien sûr.
Non, mais Jean Feldman disait, voilà, dès que quelqu'un avait une bonne idée, bingo, ça marchait. Les choses étaient
En tout cas, c'est un très beau livre que vous publiez chez Liénard. Merci. Et puis c'est un bel hommage à votre papa. C'est une façon que les gens qui ne sont plus là continuent à vivre.
Absolument. Et puis voilà, de voir des photos inédites. C'est vrai, Jane Fonda, Jean Seberg sur le tournage de Bonjour Tristesse. Absolument. Et quand j'ai découvert ça, c'était des émotions, une émotion forte.
C'est formidable. Super.
Regardez comme François Berléand est sage. Ah oui, c'est stupéfait.
C'est magnifique.
Il était beau, comme votre père était magnifique.
Oui, il était très très beau.
Ah ben, Alexandra de Kittner.
On comprend mieux.
On comprend mieux.
Enfin, vous n'avez pas vu ma mère.
Ah oui.
Parce qu'elle est dedans.
Elle est en photo aussi.
Ah oui, maman. Mais mes parents se sont connus. Maman, jeune mannequin qui rêvait d'être photographiée par Kazan. Parce qu'on savait que quand on était photographié par Kazan, les photos étaient belles et on était mises en valeur. Il y a des photos de maman aussi qui sont absolument magnifiques. Maman était une grande mannequin qui a été photographiée, évidemment, par beaucoup d'autres photographes, mais très bien photographiée par papa.
Très bien. Bah, écoutez, voilà. Chez Liénard. Lionel Cazan. Très beau, très très beau livre. On va se retrouver dans un court instant pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Mais alors, que d'émotions.
Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Je parle d'émotion parce qu'évidemment, c'est un très beau travail de dommage à son père par Alexandra Cazan. Ça s'appelle Lionel Cazan et c'est aux éditions Liénard. Et puis alors, cet hommage incroyable que France 2 va rendre à François Berléand avec oui. Retour aux sources. Et avant, pour nous occuper, ils ont donné une pièce c'est une pièce autour de François Berléand.
Quand on a une théma sur France 2, ça sent la fin de carrière.
C'est une formidable pièce, il faut le dire. René de Obaldia. C'est bien que France 2 vraiment donne... C'est pas parce que c'est aussi ma chaîne, mais je suis fier qu'il y ait du vent dans les branches de Sassafras de René de Obaldia en prime time sur France 2 avec des gens formidables. Anne Benoît, Stéphie Selma, Urbain Cancelier, qui est merveilleux, Lionel Abelance, François Vincent Elly, Rachel Arditi et Valentin de Carbonnière.
La pièce est très très drôle.
Oui, très drôle. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Demain, eh bien, on restera dans la drôlerie. On va parler du camping avec Franck Dubosc et Antoine Duléry. Merci à tous de nous avoir suivis. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.